RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Ils pensaient trouver en Tunisie un travail qui leur aurait permis d'envoyer un peu d'argent chez eux. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un objectif, rejoindre l'Europe via l'Italie. Combien sont ces migrants subsahariens pris au piège tunisien? Le dernier recensement date de 2014 et compte près de 7500 ressortissants subsahariens sur le sol tunisien. Mais le chiffre pourrait être plus élevé. Nombreux sont ceux à vivre en Tunisie en situation irrégulière. Extrêmement marginalisés, la communauté affronte de nombreux problèmes, difficultés pour obtenir un titre de séjour, précarité, exploitation au travail, racisme ou encore violence. Et puis les étudiants subsahariens, eux, boudent la Tunisie. Ils étaient 12 000 en 2010 contre un peu plus de 4 000 seulement l'an dernier. Ce qui reste n'ont souvent qu'un seul souhait, traverser la Méditerranée et atteindre les côtes italiennes. Migrants subsahariens en Tunisie, les yeux rivés vers l'Europe. Grand reportage signé Cécile Debarge.
La nuit est déjà tombée lorsque les couloirs de cette grande maison d'une banlieue populaire de Tunis résonnent des éclats de voix de ses habitants. Une quinzaine de personnes vivent ici, aucun n'a de documents en règle. Derrière chaque porte, un couple, une famille ou des amis qui ont trouvé là un abri spartiate. Dans une chambre au mur blanc décoré de quelques publicités de mode, une jeune femme aux cheveux ras pointe du doigt un sachet rempli de commissions.
J'étais obligée d'aller commander. J'ai commandé, je vous jure, voici mon sachet qu'elle a. J'ai fini de commander, mais maintenant il faut déballer. C'est une vie ça? Non. Chez moi, je ne vais pas commander pour manger. Impossible.
L'ambiance est morose dans la chambrée. Cette Ivoirienne d'une trentaine d'années a le ventre arrondi d'une grossesse bientôt à terme. Elle travaille comme femme de ménage, son mari est sans emploi. La chambre coûte 250 dinars, elle en gagne 400 par mois, soit un peu plus de 130 euros. Impossible donc pour eux de songer à déménager, impossible aussi de raconter à leur famille restée en Côte d'Ivoire leur situation.
C'est pas ça qu'ils ont espéré de moi. Mais je suis venue ici encore plus misérable que quand j'étais dans mon pays. Voilà pourquoi je ne vais pas parler à visage découvert, je ne vais pas faire des témoignages à choses, parce que ça va encore plus les faire mal.
Personne dans la maison ne souhaite donner son nom, personne ne souhaite être reconnu, à la fois honteux et désemparé de cette vie en Tunisie. Tous les travailleurs interrogés ont des récits de brimades et d'humiliation, comme cette autre femme de ménage qui a travaillé à Sfax, dans l'est du pays.
Ma patronne, effectivement, elle était très très gentille, mais à la fin, elle a gâté la région. Elle m'a mis dehors à 23 heures, à Sfax. Je ne connais personne.
Arrivée en Tunisie en avril 2015, grâce au contrat d'une agence qui embauche des aides ménagères, cette femme travaille 5 mois sans recevoir aucun salaire. Lorsque sa patronne la met à la porte, elle cherche par tous les moyens à récupérer son passeport qui lui avait été confisqué.
Mon mari a appelé depuis de Côte d'Ivoire pour dire ah, en tout cas, elle a perdu son papa, mais il fallait qu'elle rentre. Et c'est comme ça, elle a remis mon passeport. Je ne voulais pas.
Depuis, elle a trouvé un nouveau travail dans une maison de Tunis.
Tu fais tes 8 heures du temps sans boire, sans manger. Tu finis, tu viens chez toi. Si tu as soif, c'est dès que tu sors chez elle que tu vas boire dans la rue.
Dans la cuisine attenante, une femme vient de rentrer de ses ménages de la journée et prépare le dîner. D'une main lasse, elle fait sauter les morceaux de poulet dans l'huile bouillante.
Bon, les gens nous craquent comme des esclaves. Les gens ne font pas au même niveau que eux. Les gens sont tellement racistes. Ils nous considèrent en tant que des animaux.
Ces mots reviendront à plusieurs reprises, des esclaves, des animaux. Rosalie, 27 ans, décrit un quotidien fait d'insultes.
Parfois, même dans les rues, tu attends des paroles et je demande qu'est-ce que ça veut dire. Dira, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le singe. Donc, nous sommes les singes, ça donne ça, mon singe, quoi. Nous ne sommes pas des hommes.
Allongée sur le lit pour soulager ses douleurs de dos, la femme enceinte raconte que quelques heures plus tôt, un groupe d'enfants lui a craché dessus sans que personne n'intervienne.
Dieu nous a tous créés avec le souffle de vie et les battements de cœur. Mais seulement la couleur de peau qui change. Mais pourquoi traiter les autres comme si c'était chose? Et cela fait extrêmement très mal.
Certains racontent aussi des épisodes de violence. Assis en tailleur, dans un coin de la pièce, un mécanicien autour de 29 ans témoigne.
Les Tunisiens peuvent te voir et puis te lapider. L'an passé, ils nous ont lapidés. Ils te voient venir, ils ont des couteaux, ils vont t'agresser. C'est pas juste. C'est pas juste.
Depuis, il n'ose plus sortir seul la nuit tombée.
Si je sors, c'est peut-être avec 2, 3, 4 personnes, on peut y aller. Moi seul. Mais ils vont m'agresser tout à l'heure.
Dans la pièce, une femme les écoute. Océane est la présidente de l'Association des travailleurs subsahariens de Tunisie. Cette association informelle accompagne les travailleurs dans leurs démarches de santé, dans leurs demandes d'aide juridique ou sociale.
Comme il n'y a pas de cas de séjour, le droit ne sont pas respectés. Donc tu peux travailler, avoir un accident de travail et puis c'est pas grave, on s'en fiche. Tu peux travailler et puis le patron décide par exemple de ne pas te payer, c'est pas grave, en somme, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas te plaindre vu que tu n'as pas de contrat de travail. Tu peux travailler dans une maison, travailler depuis, peut-être te réveiller 8 heures, travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, c'est pas grave. Même quand tu es malade, tu peux travailler encore, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que tu n'as pas le droit de travailler et que tout le monde sait que tu n'as pas les papiers.
Installée en Tunisie depuis 8 ans, Océane est habituée à entendre ces histoires qui semblent se répéter sans fin.
Le cas qui a bousculé un peu les choses, c'est le cas où la jeune fille, une fille ivoirienne, est décédée comme ça. Elle est venue sous contrat et elle s'est retrouvée à Sfax. On l'avait mise dans une petite pièce quelque part, c'était en hiver. Elle n'avait pas de chauffage, de couette, ni rien. Donc il fallait chauffer la maison. Et tous les soirs, elle prenait du charbon pour mettre dans un récipient et allumer juste pour se faire du feu. Elle a suffoqué en dormant, c'est parti, elle a décidé de rester comme ça.
Catégorie la plus vulnérable parmi ces travailleurs subsahariens, les femmes de ménage, aussi appelées les petites bonnes, comme Rosalie, ivoirienne de 27 ans, arrivée début 2015 sur les conseils d'une amie.
D'abord, j'ai payé mon billet, parce qu'à la Tunisie et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de visa, donc juste une réservation d'hôtel, mon billet. 7 heures de vol pour arriver ici en Tunisie.
L'exonération de visa rend le voyage facile et l'arnaque d'autant plus simple pour les nombreux intermédiaires, agences ou particuliers, et qui promettent aux jeunes femmes monts et merveilles.
Bon, une fois en Tunisie, je lui ai demandé qu'est-ce que moi je peux faire là. Elle m'a dit ici, toutes les filles, quand elles viennent ici, elles font du ménage. Je lui ai dit, mais moi, je ne sais pas le faire. Tu sais très bien, au pays, on ne fait pas ça, le ménage. Mais c'est ce qu'elles font ici. Sinon, les autres boulots, on ne nous accepte pas là-dedans, sauf le ménage. Et réellement, c'est ça. J'ai vu que toutes les filles étaient impliquées juste dans ça.
Elle commence le travail à 6h30 et termine vers minuit chaque jour. Son passeport est confisqué et elle abandonne le travail lorsqu'elle ne parvient plus à porter sur ses épaules chaque jour sa patronne gravement malade. À ses amis qui l'appellent pour demander des nouvelles, elle déconseille de venir sans succès.
J'ai même une amie, elle m'a dit tu ne veux pas m'aider, ça ne fait rien, ok, Dieu est grand. Mais je lui ai dit, mais pourquoi je ne veux pas t'aider? Elle, pour elle, moi je suis à l'aise ici, je suis très bien ici, je ne veux pas l'aider pour qu'elle vienne profiter peut-être de ce bonheur qui se trouve ici en Tunisie, mais c'est pas le paradis ici.
Il y a les amis restés au pays qui ne les croient pas. Il y a aussi, pour celles qui vivent en Tunisie, la honte de raconter leur quotidien.
Une fois ici, elles ne veulent pas dire la vérité à ceux qui sont là-bas et elles ne veulent pas encore se retourner de peur que ça soit une moquerie. Donc on reste là et pour finir, la seule solution qui reste, c'est de prendre la mer. C'est tout. Rejoindre l'Italie et aller là où tu veux.
Prendre la mer, rejoindre l'Italie, traverser la Méditerranée, ces mots sont sur toutes les lèvres. Dans un quartier calme de Tunis, à deux pas de l'ambassade américaine, une devanture anonyme cache un salon de coiffure africain. Ici, les femmes travaillent dans l'esthétique, un travail qui leur plaît, mais qu'elles exercent dans la clandestinité, faute d'avoir un titre de séjour légal en Tunisie.
S'ils nous donnent les papiers, chaque un an on a un séjour, l'homme peut partir chez lui et revenir dans ce même pays. Mais si on n'a pas ce droit, qu'on veut payer les pénalités, qu'on sort de la rue, qu'on nous rapatrie, on est obligé de traverser la mer Méditerranée, c'est pas bon pour nous.
Les pénalités dont parle cette esthéticienne arrivée en septembre 2015, c'est une amende de 80 dinars, soit environ 26 euros pour chaque mois passé sur le territoire tunisien en situation irrégulière. Une épée de Damoclès que redoute aussi cette coiffeuse de 37 ans.
On te croise dans la rue, on t'arrête carrément. On te ramène dans ton pays, tu n'as pas l'argent pour payer billet, tu es obligé de rester dans les prisons.
En réalité, selon les cas, certains peuvent bénéficier d'aide au retour volontaire. Mais pour beaucoup, la question se pose de manière bien plus radicale. À une dizaine de minutes à pied du salon de coiffure, une jolie maison abrite une sorte de restaurant clandestin. Le salon est éclairé par l'écran de la télévision qui crache ses images de clips de musique. Attablée en compagnie d'amis, Océane explique le calcul que font la plupart des personnes qui se trouvent clandestinement en Tunisie.
La pénalité, c'est 80 dinars le mois. Pour aller en Libye, normalement, ça dépend. Je pense que là, cette année, on était à 750 euros, avec tout, avec le départ d'ici, le car et tout. Au pire des cas, pour les mamans, pour les gens accompagnés de bébés, tout ça, tu peux te retrouver à 1000 euros.
Nombreux sont ceux à avoir fait ce choix, notamment parmi la centaine de membres que compte l'association des travailleurs subsahariens que préside Océane.
Chaque année, on est obligé de vous faire la liste des membres, parce que chaque année, on a des membres qui partent. Et ça, c'est 110 euros au bois, donc on est là le matin, comme ça, on lui dit, bon, voilà, il y a tel qui est parti. Donc, avant lui, le secrétaire général qu'on est, il est parti, je pense que ça doit faire 2 ou 3 mois. T'en as plein qui sont partis avant lui.
Je préfère être mangée par les requins que de rester ici, résume une femme. Même Océane, l'un des piliers de la communauté subsaharienne à Tunis, a songé au départ.
Vraiment, je suis vraiment pas heureuse ici. Je vis les mêmes problèmes que toutes ces ménagères, tous ces travailleurs. Je vis mal, mais même quand je voulais partir, j'ai plus pensé à mon fils. Si c'était moi seul, peut-être que j'aurais pris la décision comme ça, partir toute seule là. Mais pour mon fils, il ne peut pas prendre la décision. Je n'ai pas le droit. Il est trop petit. Il ne faut pas que demain ce soit... C'est de ma faute s'il n'a pas pu vivre. Tout ça, j'ai pensé à beaucoup de choses. Je suis restée.
L'envie de partir est alimentée par les difficultés du quotidien en Tunisie, mais aussi par des récits complètement fantaisistes de ceux qui ont réussi la traversée. Voilà ce qu'un ami lui a raconté si elle venait en France avec son fils.
Une maison, 2 chambres-salon, meublées, tout. Chaque fin du mois, on te donne 250 euros. Je dis à bout, vite, tu vas vivre heureuse.
La tante d'Océane qui vit en France l'a mise en garde contre ces rumeurs d'Eldorado.
Et moi, j'ai une tante qui est là-bas depuis, qui a fait une vidéo la dernière fois, j'ai vu sur Facebook, elle disait que c'était des mendiants là-bas, je ne veux pas les écouter. Mais ils te répondent que même moi, mendiant, ils sont heureux là-bas. C'est grave. Mais c'est comme ça. Ils préfèrent 1000 fois rester en Europe mendier que rester ici.
Aujourd'hui, elle n'a plus la force de retenir les candidats au départ.
Même moi, quand j'essaie de passer, de sensibiliser un peu pour dire que, mais écoutez, au départ, je disais, on aura des formations ici avec les ONG, ils veulent nous aider, il faut rester pour leur donner l'occasion de nous aider, il faut forcer les choses. Ah, aussi, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Donc, finalement, quand on me dit, je veux partir, je dis, bon, ok, que Dieu t'accompagne.
Le dimanche matin, la messe est souvent le seul moment de liberté accordé aux travailleurs. On parle de ses conditions de travail, de ses envies d'Europe. Là encore, tout se fait à l'abri des regards, dans un grand entrepôt dont les murs ont été recouverts de tissus blancs et bleus, ou bien au sous-sol d'un immeuble. Aucun des deux pasteurs que nous rencontrons n'accepte de s'exprimer publiquement. Hors micro, l'un d'eux explique qu'il organise en marge des offices des séances de sensibilisation en racontant les risques du voyage en mer. Noël, l'une de ses fidèles, confirme, mais pour elle, cela ne suffit pas.
Parce qu'ils ne sont pas à l'aise ici, parce que le travail, on ne les paye pas. Donc ils préfèrent risquer leur vie pour rentrer en Italie. Vous comprenez? Et ça meurt chaque jour dans nous. Ça meurt. Parce qu'ils passent par Libye, ça meurt. Je veux que ça cesse. Si on se sent à l'aise ici, on n'est pas obligé de risquer nos vies sur le bateau.
Ce matin-là, en rentrant de l'office, Noël décide de briser le silence. Foulard marron autour des cheveux, élégante robe noire et veste à carreaux beige, elle décide d'enregistrer son témoignage et de le publier sur son compte Facebook.
Je suis sortie de l'âge, mais mes frères vont arriver. Et tu pars travailler, si là-bas t'arranges pas que tu es menacée.
Pour elle, la seule solution est de faire connaître leur sort dans les pays de départ, mais aussi en Tunisie, car le tabou est trop fort.
Il y a une fille qui s'est fait violer par son patron. Son patron, il a fait venir ses amis, ils ont violé la fille. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas se plaindre. Elle ne pouvait plus se retrouver, aller rentrer au pays. Moi, je dis non. On n'a pas le droit de nous traiter comme ça.
Pourtant, peu à peu, les choses bougent, même si c'est toujours trop lent pour les victimes.
L'appareil législatif aujourd'hui compte un peu plus de lois et un peu plus de dispositifs qui permettent d'encadrer ces femmes, de les orienter, de les protéger surtout. Il y a la loi sur la protection, la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains qui a été votée le 3 août 2016. Et puis la consolidation sur la loi sur les femmes vulnérables.
Sana Bouzbi est la directrice de France Terre d'Asile Tunisie. L'association a été créée en 2012 et compte aujourd'hui une vingtaine de personnes. Dans les locaux de la Maison du Droit et des Migrations, un service de permanence est disponible sans rendez-vous pour les migrants qui voudraient être informés sur leurs droits ou accompagnés dans leurs démarches.
Lorsqu'il s'agit d'informations, il s'agit d'informations au droit au séjour, et parfois ce sont même des accompagnements à l'accès au séjour en Tunisie. Ensuite, ce sont des besoins plutôt financiers qui s'expriment. On trouve le plus auprès du public étudiant, l'accès aux soins, l'accès aux droits sociaux de manière générale. Ensuite, il y a une catégorie bien spéciale à laquelle on s'intéresse plus particulièrement, ce sont les victimes ou les potentielles victimes de la traite humaine.
Si 95% des cas traités concernent des femmes travailleuses domestiques, 5% des cas sont des hommes.
On a vu plusieurs cas où les jeunes hommes étaient attirés par de fausses promesses d'une évolution de carrière au sein d'une équipe sportive tunisienne. Et au lieu de ça, elle se retrouve en fait à dormir sous le stade, à ranger le stade, à se faire brimer également, à servir en fait d'esclaves.
Pour prendre en charge ces victimes, la Tunisie s'est dotée en février 2007 de sa première instance nationale de lutte contre la traite des personnes. C'est l'interlocuteur direct de France Terre d'Asile lorsqu'un cas de traite est détecté.
Nous essayons de regrouper un maximum d'informations sur la victime, alors soit par son biais à elle directement, soit par le biais d'une tierce personne. Et dès que les informations sont suffisamment complètes, on adresse le signalement à la haute instance de prévention et de lutte contre la traite.
Le premier cas qu'a traité l'instance était précisément celui d'une jeune malgache, travailleuse domestique en situation irrégulière en Tunisie, explique la présidente de l'instance, Raouda Labidi.
Elle s'est enfuie d'une maison pour aller chez les voisins et elle était en sanglots pour dire qu'elle a été tabassée par la dame. Et là, elle est maltraitée, elle travaille de 6 heures jusqu'à minuit, elle est maltraitée, exploitée, elle ne recevait pas ses salaires.
Alertée par une vidéo dans laquelle cette jeune femme témoignait, l'instance se met en marche.
Tout de suite, j'ai appelé le ministère de l'Intérieur. La première chose, c'est le ministère de l'Intérieur et le parquet. Et bien, en 2 heures de temps, on a ramené la fille.
Une fois mise à l'abri, la victime, si elle est en situation irrégulière, a alors 2 options.
Ou bien le retour volontaire, ou bien s'ils veulent porter plainte, qu'ils portent plainte. Mais ils auront, selon les cas, un séjour, le temps de suivre leur procès.
Après la lutte contre la traite des êtres humains, la Tunisie s'est attaquée à un autre sujet difficile, le racisme, fortement enraciné dans la société. Le 6 juin dernier, la Commission des droits et libertés et des relations extérieures a adopté le projet de loi contre les discriminations raciales. Il doit maintenant être examiné par l'Assemblée des représentants du peuple. Quelques jours plus tôt, au large de Sfax, un nouveau drame secouait la Tunisie. Un chalutier a coulé avec à son bord près de 200 candidats au départ. 68 personnes ont été ramenées sur la terre ferme par la marine tunisienne. Parmi les victimes, repêchées 60 Tunisiens et au moins 21 subsahariens. Et le bilan pourrait encore s'alourdir. Migrants subsahariens en Tunisie, les yeux rivés vers l'Europe. Un grand reportage de Cécile Debarge, à la réalisation Pierre Chaffanjon.